Franck Bétoir, bonsoir, bienvenue sur Radio Maria France. Voilà, cette émission est à vous.
Bonsoir, cher Jérôme. Bonsoir, chers amis auditeurs de Radio Maria. Poursuivons ensemble notre émission La France et Marie à la découverte de ce lien d'amour si particulier qui unit la France à notre maman du ciel tout au long de son histoire. Savez-vous que la France possède plus de 1200 sanctuaires consacré à la Vierge Marie? On a même surnommé le royaume de France « royaume de Marie ». Le pape Benoît XIV, nous sommes au milieu du XVIIIe siècle, disait, je le cite, « Terre de France, terre de Marie ». Lors d'une précédente émission que vous pouvez écouter en podcast sur notre site internet radiomaria.fr, nous avons évoqué les plus anciens sanctuaires consacrés à Marie ainsi que la vocation divine de la France. Il existe en effet un lien d'amour entre d'un côté la France et de l'autre Marie qui nous mène toujours à Jésus et à son Église catholique romaine. Cet amour débute dans l'histoire de France par la conversion personnelle de son roi. Le 25 décembre 496, ou bien 498, ou alors au plus tard avant 509, selon les différents historiens, en la cathédrale Sainte-Marie de Reims, Clovis, roi des Francs, reçoit le baptême des mains de l'évêque Saint-Rémy avec 3000 guerriers des Leudes de son armée. La reine Clotilde aurait attribué son mariage avec Clovis et les conversions qui s'ensuivent à la Vierge Marie et à l'évêque évidemment de Reims, Saint-Rémy, qui lui aussi vénérait tout spécialement notre reine du ciel. Cette conversion personnelle de Clovis s'inscrit également dans ses victoires miraculeuses de Tolbiac et de Vouillé, ainsi que son pèlerinage au tombeau de Saint-Martin à Tours. L'évêque de Vienne, actuellement dans l'Isère, à une vingtaine de kilomètres au sud de Lyon, Saint-Avi, lui écrit une lettre de félicitations en ces termes. Il s'adresse à Clovis. Puisque par vous, Dieu va faire votre nation toute sienne, répandez aussi du trésor de votre cœur des semences de foi vers les nations d'au-delà, encore fixées dans l'ignorance. N'ayez ni honte ni regret de construire l'édifice du Dieu qui a tant élevé le vôtre. Ainsi le premier, cet évêque, exprime ce que sera désormais la vocation de la France, une nation que Dieu a faite sienne pour porter la foi aux autres nations. Cette vocation, c'est aussi un lien tout particulier avec l'Église catholique romaine, car Clovis est le premier roi barbare à recevoir le baptême dans la foi catholique, avec peut-être les Suèves dans l'actuel Portugal. Les autres royaumes barbares, comme le royaume en Espagne que l'on appelait à l'époque Visigoth, sont certes chrétiens, mais non catholiques. Ils sont en effet majoritairement passés à l'hérésie arienne, une ancienne hérésie qui ne reconnaissait pas pleinement Jésus comme vrai Dieu. En évoquant son roi Clovis, l'évêque de Reims Saint-Rémy le dit « prédicateur de la foi catholique ». Toujours notre évêque de Vienne, saint Avi ou Avite, s'en réjouit. En faisant votre choix, c'est pour tous que vous prononcez votre jugement, votre foi et notre victoire. Lorsqu'en 511, Clovis réunit les évêques en concile à Orléans, ceux-ci l'appellent « fils de l'Église catholique ». Enfin, le prologue, le début de la version carolingienne de la loi salique, c'est l'équivalent du code pénal pour ce peuple barbare des Francs-Saliens, qui est à l'origine de notre France, comporte cette phrase « Le Christ aime les Francs ». Alors à cet amour du Christ et de Marie pour la France correspond une mission. Si Dieu a choisi la France, c'est pour qu'elle soit son instrument. À partir du roi Pépin le Bref, au 8e siècle, le fondateur de la nouvelle dynastie royale des Carolingiens, les rois sont sacrés selon un rituel inspiré de la Bible, notamment du livre de Samuel et du livre des rois. Ce rituel du sacre est définitivement fixé au milieu du Moyen-Âge, au 13e siècle. Il s'agit à la fois d'un rite liturgique très codifié en une quinzaine de phases et d'une cérémonie politique incluant le sacre et le couronnement du roi en présence de 12 pairs de France, moitié laïcs, moitié ecclésiastiques, titulaires de grands fiefs rappelant les 12 tribus d'Israël. Pour le rite central de l'onction, qui se réfère à l'onction des rois d'Israël, tous les rois de France, de Clovis à Louis XVI, sont oints par la même huile sainte, cette huile que l'on affirme venue du ciel, conservée dans la sainte ampoule. Voilà ce que rapporte Hincmar, évêque de Reims au IXe siècle, à l'époque carolingienne, dans la vie qu'il a écrit sur l'évêque de Saint-Rémy au temps de Clovis. Je le cite. Comme ils, c'est-à-dire Rémy et Clovis, étaient arrivés au baptistère, le clerc qui portait le crème se trouva empêché d'avancer par le peuple, au point qu'il ne pouvait parvenir jusqu'à la cuve. C'était la volonté divine que le crème fasse défaut pour la sanctification de la cuve. Et parce qu'à cause de la foule amassée, le saint évêque ne pouvait plus ni entrer ni sortir de l'église, il leva les yeux au ciel, tendit les mains et se mit à prier en silence en versant des larmes. Et voilà que tout à coup, une colombe plus blanche que neige apporta dans son bec une petite ampoule remplie de saint crème, dont l'odeur étonnante, bien supérieure à tous les parfums qu'on avait pu sentir dans le baptistère, combla tous ceux qui étaient présents de son incomparable douceur. Le Saint-Évêque prit donc cette petite ampoule et la colombe, ou plutôt ce qui avait la forme d'une colombe, disparut. Le vénérable évêque versa de ce crème dans la cuve sainte. L'origine surnaturelle du crème du sacre du roi de France reste ainsi indiscutée jusqu'au XVIIe siècle. Enfin, il est attesté du XIIe siècle au XIXe siècle au roi Charles X, que le roi de France, nouvellement sacré, dispose de par Dieu d'un pouvoir de thaumaturge, de guérison, qu'il exerce par le geste de toucher les écrouelles, qu'accompagne une parole « Le roi te touche, Dieu te guérit ». La première attestation de cette pratique se trouve chez le chroniqueur Guibert de Nogent au XIIe siècle. Dans son traité « Des reliques des saints », il la présente comme une tradition déjà ancienne. Les rois vont vers les malades après s'être d'abord recueillis sur la tombe de Saint Marcouf ou Marcoul à Corbeny, au nord de Reims. À la fin de l'Ancien Régime, les rois touchent jusqu'à plusieurs milliers de malades dans la journée du sacre. Les rois de France sont ainsi établis successeurs symboliques des rois d'Israël de l'Ancien Testament. Les Francs deviennent un nouveau peuple élu pour l'œuvre de Dieu. Au XIIIe siècle, dans sa lettre au roi Saint-Louis, qui avait une grande dévotion également pour la Vierge Marie, le pape Grégoire IX écrit ceci. « Comme autrefois, Dieu préféra la tribu de Judas à celle des autres fils de Jacob, et comme il gratifia de bénédictions spéciales, ainsi il choisit la France, de préférence à toutes les autres nations de la terre, pour la protection de la foi catholique et pour la défense de la liberté de l'Église. De même qu'autrefois la tribu de Judas reçut d'en haut une bénédiction toute spéciale parmi les autres fils du patriarche Jacob, de même, le royaume de France est au-dessus de tous les autres peuples, couronné par Dieu lui-même de prérogatives extraordinaires. La tribu de Judas était la figure anticipée du royaume de France. Le Rédempteur a choisi le béni royaume de France comme l'exécuteur spécial de ses divines volontés. On promet à la France et à ses rois le même type de destin que celui annoncé au peuple d'Israël au chapitre 28 du livre du Deutéronome. C'est les premiers versets 1 et 2. « Si tu écoutes attentivement la voix du Seigneur ton Dieu, si tu veilles à mettre en pratique tous ces commandements que moi je te donne aujourd'hui, alors le Seigneur ton Dieu te placera plus haut que toutes les nations de la terre. Toutes les bénédictions que voici viendront sur toi et t'atteindront parce que tu auras écouté la voix du Seigneur ton Dieu. » Par contre, on promet aussi de grandes malédictions si les rois de France ou les hommes politiques deviennent infidèles à Jésus et à Marie. Ce statut privilégié du royaume franc, qui va devenir royaume de France, sera ensuite souligné pendant tout le Moyen-Âge en diverses circonstances. Je prendrai quelques exemples. Prenons le roi français, un roi français pendant la guerre de Cent Ans, de la dynastie des Capétiens et de la branche des Valois. C'est le roi Charles VI, appelé à la fois Charles le Bien-Aimé, mais aussi Charles le Fol, le Fou, qui a régné de 1380 à 1422. Lorsque Charles VI va porter son obédience, c'est-à-dire sa fidélité, au pape Clément VII, qui est alors en Avignon, le pape lui répond qu'il a singulière confiance en lui comme au bras dextre de l'Église et vrai champion très chrétien. Roi très chrétien reste le titre que porte par ailleurs le roi de France et qui fait pendant à celui de roi catholique porté par le roi d'Espagne. Après sa première attaque de folie à 24 ans, Charles VI se rend en pèlerinage à Notre-Dame du Puy et après la seconde à Notre-Dame de Paris. Autre roi, nous sommes à l'extrême fin du Moyen-Âge, le 19 janvier 1495, à la fin du XVe siècle, le pape Alexandre VI accueille cette fois-ci le roi de France Charles VIII qui se rend à Naples avec son armée. Nous sommes au début des guerres d'Italie. Le roi lui dit « Saint-Père, je suis venu pour faire fidélité à votre sainteté comme ont accoutumé de faire mes prédécesseurs rois de France. » Et le pape, tenant de sa main gauche la main droite du roi, lui répond en l'appelant son fils aîné. Ce titre de roi de France, fils aîné de l'Église romaine, sera désormais porté par ses successeurs. Mais, chers amis auditeurs, la France est également une terre de grands docteurs mariales, c'est-à-dire des grands amoureux de la Vierge Marie, toujours à cette même époque médiévale, des grands savants qui, dans la prière, ont essayé de percer un peu plus le mystère de notre Maman du Ciel. Admirons ensemble trois grandes figures. Le français Saint Bernard de Clairvaux, l'espagnol Saint-Dominique et l'italien Saint-Thomas d'Aquin, tous les deux ayant fait de la France leur terre d'adoption. Abbé du monastère de Clairvaux, dans l'Aube, à une soixantaine de kilomètres au sud-est de Troyes, Saint Bernard, au XIIe siècle, participa à la création de plusieurs centaines d'abbayes cisterciennes dans toute l'Europe. Il dédia, non pas un, mais tous les couvents des cisterciens à Marie qu'il appelait Notre-Dame. Il parle de la Vierge Marie mieux que tout autre, de manière très inspirée. Marie est selon lui la médiatrice près du médiateur Jésus-Christ. C'est une médiation à la fois ascendante et descendante. Car selon lui, Dieu n'a rien voulu que nous ayons sans que cela ne passe d'abord par les mains de Marie. Elle est reine, servante de l'Église, par sa médiation. On attribue à Saint Bernard de Clairvaux les dernières paroles, les derniers mots de la prière du Salve Regina que chantent les moines, et toute la prière du Souvenez-vous. Son sermon, qui présente Marie comme l'aqueduc, le canal de toutes les grâces, resté célèbre. Écoutons-le dans un de ses sermons. Saint Bernard de Clairvaux nous invite à regarder Marie comme l'étoile qui guide toujours ses enfants, et vous allez reconnaître un magnifique chant à la Vierge Marie que l'on chante encore aujourd'hui. Je cite Saint Bernard de Clairvaux, nous sommes au Moyen-Âge, au XIIe siècle. « Ô homme, qui que tu sois, qui dans cette marée du monde te sens emporté à la dérive parmi les orages et les tempêtes, ne quitte pas des yeux la lumière de cette étoile. Quand se déchaînent les rafales des tentations, quand tu vas droit sur les récifs de l'adversité, regarde l'étoile, appelle Marie. Si l'orgueil, l'ambition, la jalousie te roulent dans leurs vagues, regarde l'étoile, crie vers Marie. Si la colère ou l'avarice, si les sortilèges de la chair secouent la barque de ton âme, regarde vers Marie. Quand, tourmenté par l'énormité de tes fautes, honteux des souillures de ta conscience, terrorisé par la menace du jugement, tu te laisses happer par le gouffre de la tristesse, par l'abîme du désespoir, pense à Marie, nous dit Saint Bernard de Clairvaux. Il poursuit, dans les périls, les angoisses, les situations critiques, invoque Marie, crie vers Marie. Que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu'il ne quitte pas ton cœur, et pour obtenir la faveur de ses prières, ne cesse pas d'imiter sa vie. Si tu la suis, point ne t'égare. Si tu la pries, point ne désespère. Si tu la gardes en ta pensée, point de faux pas. Qu'elle te tienne, plus de chute. Qu'elle te protège, plus de crainte. Sous sa conduite, plus de fatigue. Grâce à sa faveur, tu touches au port. Bien d'autres contribuent à faire connaître et aimer Marie, notre deuxième grand docteur marial dans notre album de famille des amoureux français de la Vierge Marie. Je citerai un saint d'origine espagnole, Dominique de Guzman. Désolé du grand mal que l'hérésie des albigeois qu'on appelait aussi les cathares causait dans le midi de la France, Saint Dominique s'en lamentait aux pieds de Marie, sa céleste souveraine. Quand elle lui dit « Cette terre restera stérile jusqu'à ce que la pluie y tombe », Saint Dominique comprend alors que cette pluie était la dévotion du rosaire, du Saint Rosaire, et qu'il devait la répandre. Selon la tradition, la Sainte Vierge lui apparut à Prouille, aujourd'hui Fangeau, dans l'Aude, à 30 km à l'ouest de Carcassonne. La Sainte Vierge lui remit un rosaire qu'il appela « Couronne de roses de Notre-Dame ». Le rosaire consiste à réciter à l'origine 150, aujourd'hui 200, « Je vous salue Marie » répartis en quatre groupes de 50. Depuis que notre saint pape Jean-Paul II y a ajouté des mystères lumineux en 2002. Il consiste à méditer les mystères de la vie cachée et publique de notre Seigneur et de sa mère. Chaque groupe de cinq mystères est un chapelet. Un rosaire contient donc quatre chapelets. Enfin, dernier personnage, le troisième, le docteur de l'Église et patron des universités, saint Thomas d'Aquin. Nous sommes au XIIIe siècle. Il est un des plus grands théologiens et philosophes de tous les temps, maître de la scolastique à l'origine de ce qu'on appelle le thomisme. C'est à côté de l'université de Paris, au couvent des Jacobins, que saint Thomas d'Aquin enseigne l'impossibilité de concevoir un mystère plus grand que l'humanité du Christ. La béatitude créée et la dignité de la Mère de Dieu. Selon lui, selon saint Thomas d'Aquin, la grâce de Marie est tellement abondante qu'elle a rejailli sur l'humanité tout entière. Et il poursuit dans son commentaire sur la salutation angélique, « Dans n'importe quel danger, on peut obtenir le salut de la Vierge glorieuse. » Saint Thomas d'Aquin a écrit une belle prière que je veux partager avec vous à Marie, patronne de ses études. Ô Marie, mère du bel amour, de la crainte, de la connaissance et de la sainte espérance, vous, dont la sainte intercession a donné à beaucoup de vos fils de faire d'admirables progrès dans la science et dans la sainteté, bien que par eux-mêmes ils aient été peu doués pour les choses de l'esprit, je vous choisis comme guide et comme patronne de mes études. Puisque vous avez été honorée plus que tous les saints du resplendissement de la lumière céleste, je vous en prie humblement, par les entrailles de votre bonté maternelle et surtout par la sagesse qui a pris chair en vous, accordez-moi la grâce du Saint-Esprit pour que mon esprit puisse comprendre, ma mémoire retenir, mes paroles exprimer, tout ce qui pourra être utile à moi et aux autres pour l'honneur de la Sainte Église et celui du nom de votre Fils pour la gloire de Dieu et pour mon salut. Amen. Chers amis auditeurs, avançons encore dans notre histoire de France à la gloire de Marie en cette fin du Moyen-Âge. Parfois, les secours de Marie témoignent d'une providence étonnante, comme par exemple en 1360, au début de la guerre de Cent Ans, alors que la situation était déjà désespérée et que la France était presque réduite à l'état de province anglaise. Le roi anglais, Édouard III, allait mettre le siège devant Chartres, demeuré fidèle au roi de France. Ses armées avançaient avec assurance en foulant les champs fertiles de Beauce. Mais les éléments naturels furent les plus forts. Une grêle épouvantable, accompagnée de phénomènes électriques, de la foudre et des éclairs, jeta par sa violence l'épouvante dans l'âme du chef qui vit ses soldats terrassés comme par une invisible armée. Le nombre des morts faisait de cette marche voulue triomphale une véritable déroute. Le souverain anglais reconnut dans ce fléau la vengeance de Dieu. Les flèches de la cathédrale de Chartres, aperçues de loin, indiquèrent de se tourner vers Notre-Dame. Son tour, il implora pour les siens et il fit le vœu solennel de donner la paix à la France si la Vierge lui obtenait de faire cesser la calamité qui décimait ses soldats et pouvait l'atteindre lui-même. La Vierge l'exauça. C'était protégé deux peuples et le traité de Brétigny rendit la voie et son roi à la France. Édouard III vint à la cathédrale en pèlerin et vénéra le Saint Voile, ce voile de la Vierge qui est la grande relique de Chartres qui l'avait protégé notamment de l'invasion des Vikings. Selon une tradition bien établie, les reines de France venaient mettre ce voile sur leur ventre juste après le sacre du roi à Reims pour appeler la bénédiction de Dieu sur leur descendance. Comme l'ange du Seigneur avait exterminé l'armée de Sennachérib sous les murs de Jérusalem, ainsi Marie délivra le royaume de ses ennemis. Le roi de France, Jean II le Bon, vaincu à Poitiers en 1356 et prisonnier en Angleterre, fut délivré par la protection de Marie, que l'on avait tant invoquée par une énorme rançon. Le roi s'empressa d'aller en pèlerinage à Boulogne, à Notre-Dame de Paris et à Chartres pour remercier sa libératrice. Nous avons parcouru cette belle histoire de France en révélant un petit peu la présence de la Vierge Marie. Et nous étions arrêtés à cette fameuse et triste guerre de Cent Ans qui est forcément associée dans nos souvenirs à Sainte Jeanne d'Arc et à son lien privilégié avec Jésus et Marie. Visitée par la Sainte Vierge à deux reprises à l'âge de 4 ans et de 13 ans. De ses propres paroles, nous apprenons que la vie religieuse de Sainte Jeanne d'Arc mûrit comme expérience mystique à partir justement de l'âge de ses 13 ans. À travers la voix de l'archange Saint-Michel, Sainte Jeanne d'Arc se sent appelée par le Seigneur à intensifier sa vie chrétienne, ainsi qu'à s'engager personnellement pour la libération de son peuple, le peuple français. Sa réponse immédiate, son oui, est un vœu de virginité, avec un nouvel engagement dans la vie sacramentelle et dans la prière. Participation quotidienne à la messe, confession et communion fréquente, longtemps de prières silencieuses devant le crucifix ou l'image de la Vierge, tout ça à partir de ses 13 ans. la compassion et l'engagement de la jeune paysanne française, Sainte Jeanne d'Arc, face à la souffrance de son peuple sont encore renforcés par son rapport mystique avec Dieu. Plus on se rapproche de Dieu, plus on se rapproche de nos frères souffrants. En 1428, il y a bientôt 100 ans que la France est ravagée par cette guerre interminable avec l'Angleterre. Mais Dieu a grande pitié du peuple de France dans sa misère. Le 13 mai, à 17 ans à peine, Sainte Jeanne d'Arc laisse ses parents à Domrémy pour se rendre à Vaucouleurs et s'adresser à Robert de Baudricourt qui dirige la seule garnison française des environs. « Je suis venu à vous, dit Sainte Jeanne d'Arc, de la part de Monseigneur, pour que vous mandiez au dauphin de bien se tenir et de ne pas cesser la guerre contre ses ennemis. Avant la mi-carême, poursuit Sainte Jeanne d'Arc, le Seigneur lui donnera secours. De fait, le royaume n'appartient pas au dauphin, mais à Monseigneur. Mais Monseigneur veut que le dauphin soit fait roi et ait le royaume en commande. Malgré ses ennemis, le dauphin sera fait roi et c'est moi qui le mènerai au sacre. Quand Robert lui demande « Quel est ton seigneur ?», Sainte Jeanne d'Arc répond « Le roi du ciel ». Évidemment, elle est prise pour folle et renvoyée à ses parents. Elle doit insister, revenir une deuxième fois, puis une troisième fois. Finalement, après l'accomplissement d'une parole prophétique, la perte de la bataille d'Idéharan près d'Orléans, Robert de Baudricourt accède à sa demande après 9 mois d'attente. Après l'avoir fait exorciser, il la laisse partir le 23 février 1429. « Va, dit-il à Sainte Jeanne d'Arc, et advienne que pourra. » Alors, avec l'aide de l'archange qui lui dit « Je suis Michel, le protecteur de la France », Sainte Jeanne d'Arc intervient de manière fulgurante, portant fièrement l'étendard de Jésus et Marie, qu'elle aimait 40 fois plus que son épée. Elle convainc le dauphin, prend la tête d'une petite armée, qui le 8 mai 1429 sauve miraculeusement Orléans assiégé. Le 22 juin 1429, la même année, malgré l'opposition de beaucoup, le dauphin prend la décision d'aller à Reims pour se faire sacrer comme roi légitime sous le nom de Charles VII, car Sainte Jeanne d'Arc insistait et affirmait que c'était le bon plaisir de Dieu. Cette épopée à nul autre pareil, sans aucun équivalent dans l'histoire du monde, conduit quelques années plus tard à libérer le Saint-Royaume de France du joug de l'Angleterre et à mettre fin à cette terrible guerre de 100 ans. Enfant, Sainte Jeanne d'Arc tresse des guirlandes de fleurs pour Marie, pour Notre-Dame. Le soir, quand les cloches sonnent l'Angélus, elle se met à genoux dans les champs et prie. Pendant ses campagnes militaires, elle fait chanter 2 fois par jour antienne et hymne à Marie par les prêtres qui l'accompagnent. Elle commence ses lettres par Jésus-Maria, nom qui se trouvait aussi sur son étendard, et avec 3 croix sur un anneau à elle offert par ses parents. Sainte Jeanne d'Arc avait demandé au roi de bâtir dans son royaume des chapelles dans lesquelles on prierait pour le salut des âmes des soldats tués à la guerre, qu'ils soient anglais ou français. Elle affirmera à ses juges « Je suis venu au roi de France de par Dieu, de par la Vierge Marie et tous les saints et saintes du paradis et l'Église victorieuse d'en haut et par leur commandement. » Elle leur dit également que quand elle en ressent le besoin, elle réclame à Dieu et à Notre-Dame qui lui envoie conseil et réconfort, et il le lui envoie. Elle vit finalement pour le bon plaisir de Jésus et de Marie. Le pape Pie XI, dans sa lettre apostolique en 1922, qui proclame Marie patronne principale de la France, a également promu Sainte Jeanne d'Arc comme notre patronne secondaire. Il écrit: en ce qui concerne la pucelle d'Orléans que notre prédécesseur a élevée aux suprêmes honneurs des saints, personne ne peut mettre en doute que ce soit sous les auspices de la Vierge qu'elle ait reçu et rempli la mission de sauver la France. Car d'abord, c'est sous le patronage de Notre-Dame de Bermond, puis sous celui de la Vierge d'Orléans, enfin de la Vierge de Reims, qu'elle entreprit d'un cœur viril une si grande œuvre, qu'elle demeura sans peur en face des épées dégainées et sans tache au milieu de la licence des camps, qu'elle délivra sa patrie du suprême péril et rétablit le sort de la France. C'est après avoir reçu le conseil de ses voix célestes, nous dit le pape, qu'elle ajouta sur son glorieux étendard le nom de Marie à celui de Jésus, vrai roi de France. Montée sur le bûcher, c'est en murmurant au milieu des flammes en un cri suprême les noms de Jésus et de Marie qu'elle s'envola au ciel. Ayant donc éprouvé le secours évident de la pucelle d'Orléans, que la France reçoive la faveur de cette seconde patronne céleste. Chers amis auditeurs, dans la nuit du 14 au 15 août 2020, de cette année, on a la solennité de l'Assomption. 1000 « Je vous salue Marie » ont été priés en la basilique Notre-Dame des Victoires, dédiée au cœur immaculé de Marie au cours de la belle nuit des 1000 Ave. Au cours de cette nuit de prière, et 100 ans après sa canonisation, Sainte Jeanne d'Arc franchit les portes de Paris. Elle l'avait espéré, son anneau le fait. Sur cet anneau de Sainte Jeanne d'Arc, ça s'est passé cette année, est gravée sa devise « Jésus-Marie » qui figurait sur son oriflamme. Il symbolise magnifiquement ce lien entre la France et le ciel par l'intercession de Marie et de Jésus. Au petit matin, les 1000 roses déposées aux pieds de Marie sont reprises et portées en procession avec la Vierge et l'anneau de Sainte Jeanne d'Arc jusqu'à Montmartre. Après la montée de la butte Montmartre, ce fut l'entrée dans la basilique, près de 100 ans après sa consécration, suivie de la messe solennelle de l'Assomption présidée par notre archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit. Devant le Saint-Sacrement, en présence de Notre-Dame de France et de 70 bannières de saints qui ont marqué notre pays, le pèlerinage M de Marie de cet été a été ainsi couronné par la très sainte messe, puis par une prière de consécration qui renouvelle notre alliance avec Jésus. Écoutons à nouveau cette très belle consécration prononcée par Monseigneur Aupetit. Seigneur Jésus, en ce jour où nous célébrons l'Assomption de ta Sainte Mère au ciel, nous voulons nous consacrer à ton cœur sacré, d'où a jailli l'amour de Dieu uni au cœur douloureux et immaculé de ta Mère, la très Sainte Vierge Marie. Nous consacrons et confions à vos cœurs unis nos vies, nos familles, nos vivants et nos morts et notre ville de Paris. En cette période d'épidémie et d'incertitude, qui menace les plus isolés et les plus fragiles en ce temps de combat pour le respect de la vie et la dignité de la famille, nous te demandons le courage de la foi et la force de la charité afin de témoigner au milieu du monde de ton amour victorieux du mal. Chers amis auditeurs, je voudrais terminer cette émission par deux derniers témoignages d'amour de Marie à notre France, à l'époque dite par les historiens à l'époque moderne, c'est-à-dire la période qui va de la Renaissance au XVIe siècle jusqu'à la Révolution française. Nous sommes dans le sud de la France, dans un petit village de Provence, près de Toulon, à Cotignac. La Vierge et l'enfant, Jésus, apparaissent en 1519 à Jean de la Baume, un bûcheron qui priait sur le mont Verdail. Ils sont accompagnés de Saint Michel Archange et de Saint Bernard de Clairvaux, notre grand amoureux de la Vierge Marie. Notre-Dame de Grâce commande qu'on vienne ici en procession pour recevoir toutes les grâces que je veux y répandre. Et elle fait rapidement beaucoup de miracles en ce lieu où étaient enterrés d'antiques martyrs. Or, ce début de XVIe siècle était un temps troublé, marqué par le début de la contestation protestante. Martin Luther, qui critique les indulgences et affiche 95 thèses en Allemagne le 31 octobre 1517 à Wittenberg, allait initier un processus de mise de côté progressif de la médiation de l'Église, de la Vierge Marie et des saints, et du grand don de la très sainte Eucharistie. Des mystères que la Sainte Vierge Marie rappelle avec force à Cotignac. Avec la bulle du pape Léon X, publiée 2 ans plus tard, Cotignac est le premier sanctuaire en France à recevoir la reconnaissance d'un pape. Deuxième grand témoignage d'amour de Marie à notre France, un siècle plus tard, nous sommes au XVIIe siècle, tout semble sourire au roi Louis XIII. Victorieux à La Rochelle en 1628, il édifie en remerciement l'église Notre-Dame des Victoires à Paris en 1629. Cependant, son royaume de France est confronté à un grave problème. Après 22 ans de mariage, le roi Louis XIII et son épouse Anne d'Autriche n'ont toujours pas de descendance, laissant le trône de France sans héritier et à la merci de prétendants belliqueux. Beaucoup se mettent à prier avec la reine qui supplie fortement le ciel. Finalement, le 3 novembre 1637, la Vierge Marie apparaît au couvent des Augustins à Notre-Dame des Victoires au frère Diacre, un jeune religieux très dévot, très pieux, et la Vierge Marie lui demande de faire 3 neuvaines. Une neuvaine à Notre-Dame des Grâces à Cotignac, une à Notre-Dame de Paris et une à Notre-Dame des Victoires. 9 mois, jour pour jour, après la fin de la dernière neuvaine, le 5 septembre 1638, l'enfant tant attendu vient au monde. On lui donne le nom de Louis Dieudonné en mémoire de ce miracle. C'est le futur Louis XIV, dont le règne sera le plus long de notre histoire. Apprenant que son épouse est enceinte, Louis XIII décide alors, sans plus tarder, de prononcer le vœu extraordinaire auquel il pensait depuis déjà longtemps, par lequel il remet solennellement la France à la Vierge Marie. Je le cite, « Tant de grâces si évidentes font que nous avons cru être obligés de nous consacrer à sa grandeur, celle de Dieu, par son Fils, rabaissé jusqu'à nous et à ce Fils, par sa mère, élevé jusqu'à lui, en la protection de laquelle nous mettons particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et tous nos sujets. Nos mains, n'étant pas assez pures pour présenter nos offrandes à la pureté même, nous croyons que celles qui ont été dignes de la porter les rendront hosties agréables, et ces choses bien raisonnables, qu'ayant été médiatrices de ces bienfaits, elles le soient de nos actions de grâce. » C'est donc par un acte juridique, enregistré par le Parlement et ayant force de loi, que le roi, réputé toujours victorieux, consacre officiellement la France à Marie le 10 février 1638. Ce même roi Louis XIII décide aussi d'instituer la fête de l'Assomption le 15 août, comme nouvelle fête nationale. C'est un moment clé, dont Louis XIV fixera la mémoire par une statue de son père Louis XIII offrant sa couronne à la Vierge dans le cœur de notre cathédrale Notre-Dame de Paris. Les contemporains sont stupéfaits de la joie du peuple et du déluge de grâce qui comble alors la France à la suite de ce vœu. Chers amis auditeurs, tout au long de son histoire, notre pays a été sans cesse l'objet de la sollicitude, de l'attention, de l'amour de Marie. Depuis l'origine, Marie n'a cessé d'être honorée en France. Elle l'a fait de mille manières, par ses paroles, par ses actes, par d'innombrables faits miraculeux et quantité d'interventions providentielles. La Vierge a répondu et répond encore à nos prières, en montrant la réalité de son secours et de sa protection. La connaissance de ce lien constant, fort et puissant de la Vierge Marie avec notre pays doit être pour nous, chers amis auditeurs, le motif et la source d'une grande espérance. Car Marie est une mère fidèle qui n'abandonnera pas ce pays ni ses enfants, quel que soit leur reniement et leur chute. En tout temps et au cœur de toute détresse, nous pouvons nous tourner vers Marie, auxiliaire des chrétiens, refuge des pécheurs, et nous souvenir que la France est aujourd'hui comme hier, spécialement consacrée à la Mère de Dieu. Si nous crions vers elle, elle nous secourra. Si nous revenons à elle, elle nous ramènera au Christ. En 1891, le pape Léon XIII, dans l'encyclique Rerum Novarum, écrit ceci: « À qui veut régénérer une société quelconque en décadence, on prescrit avec raison de la ramener à ses origines. La perfection de toute société consiste en effet à poursuivre et à atteindre la fin en vue de laquelle elle a été fondée. Chers amis auditeurs, si la France veut retrouver ce qui fait sa grandeur parmi les nations, elle doit donc se souvenir de ses origines, réentendre sa vocation, retrouver le sens de son élection particulière et commencer par invoquer notre maman du ciel, Marie, la mère de Dieu.
Merci beaucoup, Franck. Merci infiniment.
C'est moi qui vous remercie.
Et on vous retrouve le mois prochain pour la suite.
Oui, tout à fait. Le mois prochain, je parlerai notamment des grandes apparitions à Paray-le-Monial de Jésus à Sainte Marguerite-Marie à la Coque, qui demande notamment au roi Louis XIV de consacrer le royaume de France à son Sacré-Cœur. Mais est-ce que le roi acceptera ? Nous le verrons pour la prochaine émission.
Eh bien, merci infiniment, Franck, et au mois prochain.
À très bientôt.